Ce podcast sera à Podren les 30 et 31 mars 2024 à Rennes. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? Venez au Festival du Podcast. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite.
Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée?
Qu'est-ce que vous sert à boire?
Bienvenue dans l'Assommoir.
Bon, d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça? Ah oui, non, mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé.
Mettez-moi un whisky avec de l'eau.
Boudou, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar?
Non, c'est pour les véros.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et j'espère que vous avez faim parce qu'on va vous régaler avec cet épisode spécial culinaire. Mais avant de vous présenter les délicieux piliers de ce mois-ci, sachez que nous enregistrons dans le bar-restaurant parisien Abby, au cœur de la Goutte d'Or, au 32 rue Mira. Merci à toute l'équipe de nous recevoir dans ce superbe endroit. La carte est originale et raffinée, le décor chaleureux, c'est bien simple, j'ai envie d'Abby, t'es ici maintenant. Merci également à vous, super public, d'être toujours plus nombreux, envoyez-nous du pâté. Aïe. Vous allez pouvoir interagir dans la tournée générale si les piliers n'arrivent pas à répondre aux questions et gagner des cadeaux en cas de bonne réponse. Et justement, en parlant de piliers, il est temps de les présenter. Elle nous a mis le feu dans Drag Race France saison 1, c'est The Queen qui se définit comme food addict et moi, je suis addict food elle. Oh. La Big Bertha.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Tu sais quel est mon dessert préféré, la Big Bertha?
Non, mais tu vas me le dire.
C'est ton millet feuillage.
Oh là 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 là. On va bientôt le retrouver sur scène, hein, sur son stand-up, c'est clair et net. Hein.
Son sens de l'humour est délicieux et ses pâtisseries sont très mordantes, à moins que ce soit l'inverse. Valente Baker!
Merci. Ça va tout le monde?
Il est humoriste professionnel en plus.
D'où la phrase, ça va tout le monde?
Tu as la particularité d'être humoriste et artisan boulanger et pâtissier.
Effectivement.
Mais tu sais qu'on risque de finir tard ce soir, tu vas pas être dans le pétrin demain?
Oh! Non ça va, t'inquiète pas, j'ai l'habitude, tu sais. Nous dans la boulangerie, le sommeil ça existe pas forcément, tu vois, donc y a pas de souci. Théâtre fini minuit, levé 3h, du plaisir.
C'est aussi une queen qui a l'habitude de visiter les grands restaurants dans les moindres recoins. Mais vraiment tous les coins, même les petits. Reign of Thrones. Pour expliquer aux auditorices, tu fais des pipi room tours dans les grands restaurants et les palaces parisiens sur ton compte Instagram Reign of Thrones. Et dis-moi Reine, que penses-tu de ceux de l'Assommoir?
Bah, j'ai la réputation d'être assez sévère, donc c'est un très correct 3 sur 5.
Oh ! Il y a une marge de progression, c'est pas mal, je prends.
Le PQ était seulement double épaisseur.
J'ai trouvé la recette pour un bon papier glacé. Laissez mijoter 20 minutes une graine de star et une bonne dose de Fabien Randan.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
Merci de revenir dans l'Assommoir, Fabien. Tu es toujours journaliste, télévision et médias. Et si tu le veux bien ce soir, tu seras notre bouillon de culture.
Ah bah c'est gentil. J'espère pas le prendre, le bouillon, ni le boire, mais je vais faire tout mon possible.
Parfait, merci. Et bienvenue au public et à vous les auditoristes autour du comptoir. Avant de vous offrir une tournée générale en vous posant des questions insolites sur la cuisine, je vous propose un happy hour et vous allez devoir raconter aux auditoristes une histoire qui vous est arrivée autour de la nourriture. Honneur à notre Big Bertha.
On va commencer par le commencement. Ma première anecdote de bouffe, c'était avec ma grand-mère. Ma grand-mère me disait, les mecs, tu les attrapes par les couilles et tu les gardes par le bide. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que je fais un date chez moi, je fais à bouffer. Et c'est vrai. Après plusieurs analyses, je trouve que le parmentier de canard m'a apporté de longues relations.
Ah, le
ouais. Mon ex, on est restés 6 ans ensemble et il me parlait encore du parmentier de canard. Voilà. Sinon, une anecdote. Ah si, il y a un truc qui me saoule chez mes potes et tous mes potes hyper proches, ils sont au courant. Quand je vais chez eux, j'ouvre le frigo.
Ah.
Ouais. Et si je vois un pot de mayo Indus, je les défonce. Il y a tout un truc autour de la mayo où les gens sont « Ah mais non, je ne peux pas les faire, je ne sais pas la faire. » Ou les filles « Ben non, j'ai mes règles, je ne peux pas faire la mayo. » C'est quoi cette histoire, Sandek? Girl,
Est-ce que t'as déjà été invité chez Véronique Courgeot?
Alors, non, je dis le frigo, pas le congélo.
Ah, d'accord. Okay. Bah, merci beaucoup, Big Bertha.
Avec la joie.
Dans mon frigo, moi, tu pourrais trouver de la mayonnaise indue. Je suis désolé, mais...
Eh bien, je quitte le projet. Ou alors, je vais chez toi et je te fais une mayo.
Ah bah, oh, oui. Parfait. Reine of Thrones, quelle est ton anecdote insolite autour de la nourriture?
Ouh là là, tu me prends au dépourvu, presque.
Ah bah, on peut passer à Valente Baker.
Ouh là là, tu me prends au dépourvu.
Non, j'ai hésité à vous raconter la fois où je suis allée prendre mon petit déjeuner au Fouquet's et où j'ai trouvé un cafard écrasé aux toilettes.
Oh. Oh.
On est d'accord que c'est dégueulasse parce que sur TikTok, plein de gens m'ont dit « C'est pas grave, ça arrive à Paris. Tu vis où? Mais il n'y a pas de cafard dans ma cuisine. » Mais je voulais plutôt vous raconter le meilleur resto de ma vie. Pour vous donner un petit peu de contexte, je suis folle amoureuse du chef Glenville. D'ailleurs, ah. Je mens, c'est pas de l'amour ce que je ressens, ça picote un petit peu plus. Il faut être honnête. Mais cette torride relation est compromise par le fait que je sois mariée et un petit peu fidèle quand même. Et je ne sais pas comment, j'ai quand même réussi à convaincre mon mari, pour notre anniversaire de mariage, de louer une voiture, de se taper 10 heures d'embouteillage, une nuit d'hôtel, pas gratuite, hein, parce que tant qu'à faire, il faut que ce soit tout confort, et donc de m'emmener au restaurant de Glenville pour le déjeuner. C'était le déjeuner le plus cher de sa vie, évidemment, parce que c'est un 3 étoiles, alors il faut compter à peu près 3 zéros sur l'addition. Mais est-ce que le jus de poutargue en valait la peine? Oh que oui.
Ah.
Est-ce que le riz soufflé au réfort était à la hauteur? Bien sûr.
Oh.
Est-ce que la gambasse royale, le bœuf et sa laitue reconstituée, le rouget et sa peau au graissin, tout était divin? Et cerise sur le gâteau, à la fin du service, le chef il fait le tour des tables et quand arrive notre tour, moi, j'ose lui demander une photo de lui. Il me répond « Ah et bien sûr, on va la prendre tous les trois ». Mon mari et moi on s'est regardé, on a ri et il a dit à Glenn « Je crois qu'en fait elle aimerait une photo juste vous et elle ». Est-ce que c'est mon mari qui a pris la photo de Glenn et moi? Oui messieurs dames, est-ce que quand Glenn a mis sa main sur mon épaule, j'ai pris ça comme une invitation à lui caresser le dos?
Le tourne-dos, non?
Et est-ce que j'ai failli quitter mon mari ce soir-là pour Glenn, lorsqu'il a tiré ma chaise pour que je me rassoie? Oui, aussi. Donc le seul bémol, finalement, de ce dîner, c'était le dessert, puisque ce que j'avais imaginé n'était malheureusement pas à la carte.
Ah, c'est joli! Et alors, comment tu l'aurais appelé, ce dessert?
Je suis pas sûre de pouvoir le dire, c'est un petit peu indécent.
Le divorcé, non?
Et j'embrasse mon mari qui est dans la salle, du coup.
Bravo!
Merci beaucoup, Reine. Valente, raconte-nous une histoire insolite qui t'est arrivée autour de la nourriture.
Bah alors déjà, quand t'en fais ton métier, que ton grand-père est boucher, que ton père est boucher et que toi, t'es boulanger, la nourriture, on va dire, déjà, tout ce qui vole, ce qui marche, ce qui nage, ce qui vole, je l'ai bouffé, tu vois. Kangourou, tout, mon gars, on a tout bouffé à Noël, mon gars, tu vois. Autruche, tout, la totale. Non, mais moi, je vais vous parler du point de vue client, d'accord? Moi, il y a une cliente, toujours, elle arrivait, elle disait...
Il n'y a pas assez de rhum dans le baba au rhum.
Alors, un jour, mon patron, il a dit, tu vas voir, celle-là, mon gars, elle va s'en souvenir.
Elle a flambé, la meuf.
Vous voyez les petites cagettes en plastique, là, qui finissent dans la mer avec les tortues, là. Bah, nous, on l'utilise, on l'a rempli de rhum, d'accord? Le baba, on l'a trempé directement dans le rhum, on l'a mis dans la cagette, donc tu as une espèce de flotteur, tu vois. On met de la crème pâtissière avec du rhum dedans... On le remet dedans et on met un petit bout de cerise qu'on a trempé dans le rhum aussi, tu vois. D'accord ? On le donne à la grand-mère. La grand-mère, elle revient le lendemain, elle dit « Il était bon le baba, mais il manquait un peu de rhum. Ah » Voilà. Ah bah les boulangers et l'alcool, de toute façon... J'en ai 50.
Et t'es sûr qu'elle voulait pas voyager, en fait, quand elle te parlait de Rome?
Mais je pense, peut-être. Bah, elle a voyagé, je peux te le dire. Je pense qu'après, le baba... En plus, on achète le vieux Rome, tu sais, pâtissier. C'est en plastique, comme la villageoise.
Oh.
Tu sais, c'est un truc, tu regardes derrière, il n'y a pas d'ingrédients. Mm-hmm. En fait, on vous dit que c'est du Rome, mais on ne sait pas. C'est que c'est. Non, ça sert pour déboucher les chiottes aussi de temps en temps. Ouais, mais bon. En tout cas, elle a aimé, c'est le principal, tu vois.
Bon, bah parfait. Bah on l'embrasse si elle est encore en vie.
Non.
Ouais. Merci beaucoup, Valente. Fabien !
Ah bah moi, c'est moins rigolo, mais j'ai pas du tout de rapport avec la nourriture, avec la cuisine. Je suis hyper mauvais en cuisine et tout. Donc, ce qui me rapproche le plus du thème, c'est, je crois, d'avoir été juré deux fois de la finale de Top Chef. Ah bah en tant que journaliste. Oui, mais c'est une, voilà, c'est une anecdote sympa, mais c'est surtout pas aussi glamour que ce qu'on peut penser quand on regarde à la télé, quoi. Voilà.
Ça dépend que Glenn était là ou pas.
C'était 2017 et 2018, il n'avait pas encore intégré l'émission, donc...
Donc c'était pas glamour, t'as raison.
C'était un peu moins glamour, mais voilà, disons que c'est quand même 5 heures de tournage, on mange froid, parce qu'il faut attendre que toutes les assiettes soient posées sous la table, que les caméramans, bien sûr, aient fait leur plan de coupe, aient fait tous les gros plans dessus. On doit manger dans l'ordre qui nous est indiqué, le menu A, le menu B. Et ensuite, bah, bien sûr, trouver des choses intéressantes à dire quand il y a une caméra qui s'approche et qui demande ce qu'on pense du plat. Donc voilà, hein, on s'improvise des critiques culinaires quand on n'a pas trop de goût. C'est sortir de sa zone de confort.
Et tu dis, c'est de la merde.
Voilà. Non, c'est croustillant, il y a un contraste dans les saveurs. Voilà, on trouve ce genre de conneries
elle
à sortir.
Elle est bonne la mousseline.
Voilà. Je me souviens, il y avait un dessert avec une glace au sapin. Oh. Il y avait un truc tout. C'était vraiment pas bon du tout. Enfin, il y avait. On va dire, c'est une prise de risque qui n'a pas payé. Et voilà, c'est je crois ce que j'ai dit à l'époque hein, quand on m'a demandé ce que j'en pensais. Et je sais que j'ai saqué. J'ai mis 9 points au menu A, un seul point au menu B.
Alors saqué menu A, menu B, t'étais pas dans le Top Chef là.
Nous donner menu A, menu B parce que on ne savait pas pour qui on votait, bien sûr. Enfin, on savait pas qui était en finale et tout.
Oh, elle met du temps à arriver, mais quand elle arrive...
Ben, merci beaucoup, Fabien, mais c'est incroyable. Quel a été ton plat préféré ? Fais-nous rêver un peu.
Ah bah non, mais je me souviens d'un dessert mais qui a rappelé la composition de l'Ispahan de Pierre Hermé. Moi, à l'époque, je ne savais pas du tout ce qu'était l'Ispahan de Pierre Hermé. Donc, c'est des notes de litchi avec de la rose, etc. Et moi, ça m'avait épaté l'époque. Donc, du coup, 9 points. Je pense à un des meilleurs desserts que j'ai mangé de ma vie. Mais c'était avec des framboises qui n'étaient pas de saison.
Ah là 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 là.
D'ailleurs, le sapin était de saison par contre.
Et voilà, c'était en décembre effectivement. Voilà. Mais c'était pas un cadeau ce repas.
Bah merci beaucoup.
Oui, non, vous êtes pas obligé.
Merci Fabien.
Et toi,
Jean-Sébastien.
Et toi ?
Moi, souvent en soirée, je demande à mes amis quel est votre premier souvenir d'être humain ?
T'as beaucoup d'amis ou
quoi ? Eh ben. Moi, je réponds à cette question, c'est les coquillettes. Un plat de coquillettes. C'est mon premier souvenir, je devais avoir 4 ans. Mais en fait, je m'en rappelle quand je les ai vomis. Et je revois cette galette de coquillettes dans mon berceau, quoi. Et du coup, j'ai une phobie des coquillettes. Et quand tout le monde est là, genre, ouais, c'est la mode, machin, et tout, les coquillettes, je sais pas quoi, là, tout le monde s'y est mis.
Ah oui, la frénésie coquillettes.
Voilà, je crois qu'il y a même un bar à coquillettes, non ?
Oui, ça doit exister, ouais, oui.
Vois, voilà. Et ben, sachez que pour moi, c'est Vaderétrosana. Je déteste les coquillettes et je revois cette galette de coquillettes que j'avais faite, quoi.
Donc, t'es le seul au monde à être coquillettophobe.
Oui, absolument, voilà. Coquillettophobe. Non, mais c'est terrible. Et ça m'isole, quoi, tu vois, c'est encore un truc.
Ah, bichette. Oh là là. Et voici un plat de coquillettes, s'il vous plaît.
Au secours.
Et ben, sur ce, c'est la fin de la Biawar. Et je vous offre une tournée générale. Dans la tournée générale, je vous ai préparé une agape de culture insolite autour de la bouffe et de la restauration. Êtes-vous prêts, mes chers piliers ?
Yeah. Chiche.
On va se parler d'un bonbon qui a été créé par Paul Furst, un Viennois, en 1890. Il est présenté, ce bonbon, à l'exposition universelle de 1905 à Paris, où il reçoit la médaille d'or, ce bonbon. Quel est le nom de cette confiserie ?
La Dragée Vichy ?
La Dragée Pétain ?
Ouais, c'est ça. Non, on était en 1905.
C'est le Mozart Kugeln ou un truc comme ça, non ?
Oh là là, en français ?
Là, bah, je sais pas, je ne connais que le nom allemand. Je connais que sous le nom de Mozart Kugeln ou quelque chose comme ça.
C'est ça. Alors, quelqu'un parle viennois dans la salle ?
Oui, très couramment.
Si, si, il y a une traduction.
Tragibus.
Attends. Mozart Kugeln.
Kugeln, ouais.
Alors, étymologiquement, Kugeln, ça doit venir de. Non, je déconne.
Non, pas du tout. J'étais cru de ouf. Non.
Est-ce que c'est l'oreille de Mozart ?
Alors, c'est pas l'oreille de Mozart. Qu'est-ce qu'on.
Ah, mais il y a un truc de Mozart dedans.
Ah, oui, c'est Mozart Kugeln. Donc, quel est le nom de cette confiserie ?
Les couilles de Mozart.
Bravo, bravo.
Chacun sa culture.
On a dit les couilles de Mozart.
Oui, absolument. Bon, moi j'avais noté la boule de Mozart. C'est un peu plus poétique. Mais tu as gagné.
Et on peut goûter ça où?
Oh, il y a des lots.
Oh, bravo.
Viens prendre les couilles de Mozart.
C'est ça. Et donc toi, t'as
on
goûté.
Oui, mais en fait, c'est assez...
T'as goûté les boules de Mozart?
Oui, oui. J'allais dire, c'est les confiseries préférées de ma belle-sœur, ce qui est vrai en plus, mais...
Et toi qui es critique culinaire, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé?
Oui, eh bien, c'est croustillant, c'est fondant, mais le contraste est assez décevant.
Il manque un peu de sapin, je pense.
Il aurait mieux fait de se consacrer à la musique seulement et pas de se lancer dans la chocolaterie.
Attends, il y a quoi dedans?
Surprise!
Du rhum.
C'est incroyable cette histoire des boules de Mozart. Pourquoi? Parce qu'on en produit 90 millions par an. Ouais, vous vous rendez compte? Il y a 90 millions de boules qui sont produites par an. Et à cause du Covid, on a failli perdre la boule, littéralement, de Mozart. Parce que, généralement, ça s'offre pour les anniversaires, les mariages, etc. Et comme il n'y avait plus rien de tout ça pendant le Covid, toutes les entreprises ont fermé. Et ça aurait pu être un patrimoine autrichien qui a disparu, quoi. Mais non, finalement, la boule revient en force. Voilà.
Oh, ça aurait été dommage de perdre ça. Hein.
Ouais, bah la mienne est un peu fripée. Hein.
Et moi, je m'étais noté, j'aurais aimé goûter la Beethoven. Restons sur les inventions, si vous le voulez bien. Quel plat a inventé un Grec qui s'appelle Sotirios Panopoulos au Canada en 1962?
La queue de castor.
Oh, ça existe?
Ouais.
Non, sérieux?
Si, si, la queue de castor, c'est comme une pâte en fait qui est toute plate et j'en ai jamais bouffé, mais voilà.
Mais c'est pas une vraie queue de castor.
Non, pauvre père castor à qui on a bouffé la queue.
Moi j'en ai déjà mangé, c'est super bon.
Ah, bah, ça... On dirait que t'es le mec dans la nature
qui bouffe tout.
Alors j'ai trouvé ça, ça bougeait, je l'ai tué, je l'ai bouffé.
Hey Joey, j'ai trouvé un arbre sur le truc.
Il est en train d'attaquer le micro. Repose ça, Valente.
J'aime les poils.
Alors, Sotirios Panopoulos, qu'a-t-il inventé, ce grec, au Canada en 1962?
Quelque chose qu'on trouve partout. On trouve facilement ça à Paris.
Malheureusement, on trouve ça partout et partout dans le monde.
Alors, ça a été inventé au Canada parce que c'est typiquement canadien et c'est venu chez nous.
Justement.
L'éclair au chocolat.
Non,
c'est une pâtisserie?
Ce n'est pas une pâtisserie, c'est salé.
C'est salé et c'est pas du tout grec.
Et c'est pas du tout grec. J'ai une proposition dans le public.
La pizza hawaïenne.
Bravo ! C'est en effet la pizza hawaïenne que Sotirios Panopoulos a créée au Canada en 1962.
Il était bourré.
Alors, quasi. Parce que, en fait, c'était pour s'amuser au départ, il nous raconte. Il se demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire d'incroyable et d'original. Et là, c'est pas qu'il voit une conserve d'ananas. Et l'ananas en conserve s'appelle hawaïenne. Et il se dit, on va faire la pizza hawaïenne. Mmh. Et au départ, c'était une blague. Quand tout d'un coup, les gens ont commencé à kiffer. Les gens bizarres, pardon, ont commencé à kiffer. Et ils l'ont mis à la carte. Et ça s'est exporté. Depuis 1962, c'est à cause de Sotirios Panopoulos.
Ou grâce.
Ah, tu aimes la pizza hawaïenne, Bertrand?
Et alors? Que la première personne me jette la canette d'ananas, merde. Oui, j'aime bien. Ah ouais. Ça me dérange pas. Il y a pire dans la vie. Les couilles de Mozart.
Ou les coquillettes.
Ou les coquillettes.
Ouais. Merci beaucoup, ouais, c'est vrai. Oh là là, t'imagines des coquillettes hawaïennes.
Oh. Ah ouais, non,
l'enfer. Mais du coup, alors ce qui est hyper drôle, c'est qu'il est mort quelques mois après que le président islandais avait déclaré en 2017 la pizza hawaïenne devrait être illégale dans le monde entier. Et il est mort après?
Il y a peut-être un lien.
Oui, peut-être.
Mais je crois que ça lui est resté en travers de la gorge.
Attends, c'est vrai que le président a interdit la pizza hawaïenne?
Non, il a déclaré que ça devrait être interdit. Mais
il a rien d'autre à foutre de son pays, en fait.
C'est l'Islande.
Mis à part Björk. Voilà. Encore une question.
Mais bravo. Oh, mais ton cadeau. Et tu réclames pas le cadeau?
Ah non, je réclame. Non, pas la pizza hawaïenne. Pas non. Non.
Non, non, c'est la queue du castor.
Un verre offert.
Oh, oh.
Ah, du coup, la dame veut rendre les couilles de Mozart. Et...
Ah, mais la dame a vraiment eu des couilles de Mozart ?
Ah oui, oui, vraiment. Elle a eu un paquet entier de...
J'aime pas la tiste, mais j'aime les couilles, par contre.
Il faut dissocier le... Non. On va pas aller là-dedans. Non, non, non.
Faut pas séparer l'artiste...
Non,
sa confiserie, bien sûr. Ouais. On va se parler de la groseille de Chine.
Changeons de sujet.
Vous connaissez tous ce fruit, mais pas sous ce nom-là. Vous l'appelez par le nom qu'une entreprise néo-zélandaise lui a donné en 1960. Mais quel est ce fruit ?
Le kiwi.
Ah, vraiment, tout le monde connaissait ça, en fait ?
Alors moi, je connaissais pas la réponse, hein, et puis j'essayais de lire.
Bah, bonne réponse. Ouais.
Moi non plus, mais je suis boulanger, donc c'est pas...
La groseille de Chine.
Ouais, on appelle le kiwi, son vrai nom, c'est la groseille de Chine. C'est une entreprise néo-zélandaise qui, en 1960... a implanté la groseille de Chine dans son pays et il voulait le vendre aux États-Unis. Sauf que impossible de vendre aux States un fruit qui s'appelle la groseille de Chine en plein pendant la guerre froide. Donc ils se sont dit, bah on va l'appeler kiwi comme l'animal.
Oui,
parce
c'est
que
ça.
C'est, voilà, c'est rond et poilu.
C'est les couilles du kiwi. Voilà. Le podcast est sur les couilles en fait. Couilles Forest, couilles.
Alors hier j'ai mangé une couille de vélociraptor.
Oh là, si on est sur les films, j'ai l'impression que la farce est avec vous ce soir. Oh.
Très fine, très fine.
En 2021, à Taïwan, plus de 150 personnes ont changé leur prénom pour Guy Wu. Mais pour quelle raison ?
Pour avoir un menu gratos dans un resto.
Absolument.
Bravo
la liberté ! Mais alors ?
Parce que Guy Wu, c'est moi. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, Guillou ?
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Bertha. Pff, aucune idée.
Ça veut dire en fait saumon.
Ah.
Et donc, c'est la chaîne de restaurants Akindo Sushiro qui, le mercredi 17 mars et 18 mars 2021, offrait un repas gratuit pour tous ceux qui s'appellent saumon. Et donc, 150 personnes ont changé leur nom parce qu'il faut savoir qu'à Taïwan, c'est très facile de changer son nom. On peut en changer, mais seulement que 3 fois. Et du coup, il y a le Taipei Times qui nous explique que il y a cette jeune étudiante qui a changé son nom en
Guiou.
Voilà, en Guiou. Et alors vraiment, elle s'est fait appeler bol de riz au saumon. Et le seul problème, c'est qu'elle ne savait pas que sa mère, quand elle était plus petite, quand elle était bébé, avait déjà changé son nom 2 fois.
Ah non.
Et ça a posé plein de problèmes comme ça, quoi.
Mais,
voilà.
Mais attends, c'est le repas offert une seule fois ?
Oui,
une seule fois.
Oui, seulement le 17 et le 18 mars 2021.
Parce que moi, si c'est pour toute la vie, je veux bien m'appeler Côte de Bœuf. Mais pour une seule fois...
Le petit canard. La Big Bertha canard.
Ou la Big Erta aussi, on me l'a souvent fait. Voilà.
Et si vous deviez prendre un prénom de votre plat préféré, par exemple, vous appellerez comment ?
Queue de castor.
C'est vrai que ça te va bien, ça.
Tu me connais bien.
Et toi, Ren, ça serait quoi ?
Moi, je pense que ce serait carbonara parce que c'est clivant.
Ah, avec ou sans œufs ?
Avec ou sans crème, surtout.
Non, sans crème, la question ne se pose pas.
Normalement, ouais.
Et toi, Big Bertha, du coup, ça serait un côte de bœuf, vraiment ?
Moi ?
Ouais.
Voilà.
Je sais.
Ah, ça appétit,
non, non, ça, c'est après avoir mangé, ça.
Et toi, Fabien ?
Moi, ça serait une très mauvaise idée parce que ça serait truffade. Donc,
Ah là là, oui.
Donc, il y a un truc truffable, peut-être, pourquoi pas ?
Oui.
Couper la poire en deux.
C'est tellement bon, ça. Je me suis pris la gueule avec une journaliste qui me disait « Ah là là, moi, j'adore la truffe, j'adore la truffade. » J'étais en mode genre « Mais ma
rien
fille,
à voir.
Mais ça n'a strictement rien à voir. Wow. Révisité classique, connasse. » Pardon. Oui, j'ai tendance à m'emporter beaucoup quand on injure la gastronomie française.
Écoutez, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire et d'horrible à la fois. Dans certaines bières, et même la majorité des bières, il y a un ingrédient qui est caché. Lequel ?
La pisse.
Mais presque !
Parce que moi, je ne bois pas de bière, je trouve que ça sent la pisse et je trouve que vous buvez tous un truc qui doit avoir le même goût que votre urine.
Parle pas comme ça de la 8-6.
Ah, des excréments de souris.
Non, non.
Bah oui, dans le blé, dans l'orge, etc. Ouais.
Mais ça vient d'un animal.
C'est dû à la conception, enfin au stockage des canettes, des choses comme ça.
Non, pas du tout. C'est vraiment dans la bière elle-même. C'est pour lui donner cette couleur claire et attrayante.
Ah, c'est pas le... Attends. Il y a une couleur qui est donnée aussi dans les aliments, qui peut être aussi donnée dans la bière, et ça vient d'un verre.
Oui, ça c'est le rouge, le carmin, là, ou je sais pas quoi.
Carmin,
ouais, ça n'a rien à voir. J'ai une proposition dans le public.
Des œufs de poisson.
Non, mais c'est de poisson. Mais c'est pas des œufs.
Des viscères. Hein.
Des testicules de.
Non, on était sur la pisse. Hein.
De la vessie.
Oui, bravo. C'est la vessie de poisson.
Bravo. Et là, tout le monde repose sa bière. Je t'ai vu.
Justement, tiens, va te rechercher de la vessie de poisson.
De la vessie de poisson.
Alors, plus précisément, c'est de la vessie de l'esturgeon ou de morue.
Ah oh bah ça va.
T'es habitué toi. Alors en fait, on transforme cette vessie de morue en ichtyoctol et la vessie est fondue dans de l'eau, déshydratée et réduite en poudre. Cette poudre va s'attacher aux impuretés de la bière qui va les emmener au fond de la cuve pour que la bière soit bien claire et attrayante. Voilà.
Eh bien je vais taper des shots de vodka maintenant. Ah c'est dégueulasse.
Ouais, après on va critiquer le coca.
Quand j'ai appris ça, je bois plus la bière de la même façon.
Maintenant je savoure.
Et là je me dis, ouh, esturgeon, 24 mois, 24 mois l'esturgeon je pense.
Il n'y a pas assez de morue dans cette bière.
C'est ça.
Mon dieu, j'ai des vannes, mais je peux pas les dire en public. À la maison je les aurais dit.
Genre, oh là là, on est comme à la maison, vas-y lâche-toi. Et excuse-moi, t'en as déjà sorti 2-3, j'aurais eu honte de les sortir ici. Hein, on va pas se mentir, hein, voilà.
Non mais excuse-moi, t'es déjà en pyjama de toute façon.
Allez, the shade. Mais non, c'est faux, il a une belle production, bravo.
Ah oui, mais en plus elle brille, ta petite chemise.
Ah non, ça c'est...
Ça c'est ta transpiration,
ouais, c'est... D'accord. Exactement. Pour les prochaines questions, on va revenir en France. Vous connaissez l'expression « la culture », c'est comme de la confiture. Mais parlant de confiture, quel est le premier homme au monde entier à avoir écrit un traité sur la confiture ? Je vois, Ren, que tu regardes mon écran, quoi.
Oui, j'essaye de tricher.
Mais
ah là là.
Heureusement que j'ai enlevé les réponses...
Ah mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'arrive à rien voir.
Est-ce que c'est un homme de lettres ?
Absolument. Vous voulez l'année ou pas ?
Ouais.
Allez. Il a écrit le traité de confiture en 1555.
Andros ?
Le vicomte Andros.
J'ai un partenariat, c'est pour ça. Je dois le citer 3 fois dans le podcast.
Première fois, ok. Donc en 1555... Non mais vous avez rien à dire là ?
J'ai demandé est-ce que c'est un philosophe ? C'est pas un philosophe.
Ce n'est pas un philosophe. Mais c'est un homme de lettres parce qu'il a écrit des lettres, il a écrit beaucoup de choses.
Quelle nationalité ?
Français, monsieur.
Française.
Surtout que maintenant, voilà, on a peur de citer des noms qui soient complètement anachroniques et de passer pour des cons, quoi. Voilà.
Complètement.
Parce que sinon, je te dis BHL. La Fontaine, je te dis du...
Louis XV ?
On l'attendait pas du tout là-dessus.
On l'attendait pas sur la confiture. Mais on le connaît très bien.
Un homme de lettres, un religieux ou pas ?
Oh, il était mystique, on va dire.
Mystique.
Booba ?
Nostradamus.
Je l'ai entendu, bravo dans le public. Oh là là. Bravo. C'est Nostradamus qui a écrit le premier traité de la confiture au monde entier.
Mais il fallait bien qu'il se fasse à bouffer pendant qu'il regardait les étoiles, quoi, tu vois. il devait se faire chier, tu sais. Et où ? Non, je la trouve pas.
La constellation de la casserole. Il n'y a pas une...
Si, c'est la grande ours et la petite ours qui sont en casserole.
Tout à fait.
Et alors, sachez que il a écrit des confitures laxatives à base de roses rouges. Hein, ouais. Non, mais il faut le savoir quand même. Et celle-là, j'aimerais bien la tester. C'est une confiture de courge.
Mm-hmm.
Pour le foie, hein, je vous rassure. Pour le foie.
Une confiture de courge ?
Je sais pas, oui.
Ouais, détox, ouais. Et donc, il y a un vrai mouvement qui revient, qui est les confitures d'antan. Parce que, évidemment, maintenant, elles sont hyper industrielles. Et donc, il y a plein de gens qui achètent ce livre. Vous pourrez le voir voilà, dans la FNAC, qui remonte de ouf, hein, le traité de confiture de Nostradamus.
Mais même, il y a une boutique de confiture qui s'est montée rue des Francs-Bourgeois à Paris. Le truc est minuscule et c'est que des vieilles confiottes, quoi. Mais ça coûte la peau du cul. Alors que meuf, j'ai envie de te dire, c'est du sucre et du fruit. Tu te calmes. Mais c'est hors de prix, le truc. Et c'est genre, ouh, c'est une petite confiture figue rose. Ouais, ton pot à 30 balles, ma chérie. Non. Mais c'est bio. Non.
Vous aimez la confiture ? La relance de merde.
Et sinon, vous la confiture ?
Ah oui, oui, j'adore.
Ah oui, oui. Ah.
Je préfère la culture.
Oh. J'aimerais qu'on rende hommage à Pierre Rousseau, chef cuistot du restaurant prestigieux À la Carte. Il est le seul et unique chef cuistot au monde à être mort comme ça. Sa mort est hyper insolite. Pierre Rousseau. Comment Pierre Rousseau a-t-il trouvé la mort ?
Dans sa cuisine.
Il est mort dans sa cuisine.
Est-ce qu'il s'est étouffé avec quelque chose ou
Il a suffoqué, on va dire.
Il s'est noyé dans un pot-au-feu.
Alors, il s'est noyé, absolument. Pierre Rousseau s'est noyé.
À la pêche.
Non, pas à la pêche.
Dans un bain-marie.
Dans un bain-marie. Dans un jus corsé.
Il s'est noyé, Pierre
Rousseau.
Il s'est
noyé dans les toilettes.
Non.
Je sais pas.
Reine, tu y étais ou pas ?
J'y pense depuis tout à l'heure.
C'est moi qui l'ai noyé.
Il a été asphyxié par un truc, style monoxyde de carbone. Il est tombé dans l'évier.
Non. Pierre Rousseau est vraiment mort d'une façon insolite. C'est le seul cuistot au monde entier. Et plus aucun cuistot ne pourra mourir comme ça.
Il s'est noyé dans la plonge.
Non.
C'était pendant le coup de feu ?
Ah oui, le coup de feu en cuisine, oui. Bien sûr. Oh, joli. Non, non. Pierre Rousseau est mort, peut-être je vais vous donner l'année, en 1912.
Oui.
Ah mais c'est lors de la crue à Paris, non, c'est ça ?
Alors, c'est en rapport avec les eaux.
D'accord.
Bravo ! Pierre Rousseau, qui tenait le restaurant prestigieux qui s'appelait À la Carte, qui était le restaurant...
Du Titanic, ouais, c'est vrai.
Du Titanic. Et il est mort dans sa cuisine, il est resté jusqu'au bout... pour dire « je coulerai avec mon restaurant ». C'est incroyable, non ?
Et c'est dans cette cuisine-là où ils ont essayé de reprendre des recettes de la tour d'argent, sauf que, techniquement parlant, ils n'y arrivaient pas, parce que sur un bateau, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir le matériel disponible sur un bateau que sur la terre ferme. Voilà !
Mais incroyable !
Confiture, confiture.
Bon, oh là là, Nostradamus !
Nostradamus !
Mais c'était pas dans le film.
Ah mais c'est vrai, il y en a que pour l'orchestre qui a joué jusqu'au bout, ouais, et tout, mais Pierre Rousseau, voilà.
Pedro.
Alors, sachez qu'il préparait sur le Titanic un potage qui s'appelait le potage Olga et qui demande 3 jours de préparation.
Comme un cassoulet.
Oui, oui. Et de digestion aussi. Et c'est ouf, voilà, il est mort le 14 avril 1912, il a coulé avec son resto quand même.
C'est une belle mort quand même.
Enfin oui, c'est une très belle mort. C'est toi, moi en tant qu'artiste, j'ai envie de mourir sur scène, lui il est mort dans sa cuisine quoi. C'est la Dalida de la cuisine, quoi, voilà. Moi, je vais mourir sur mes 4 feux.
Moi, je veux mourir sur... Mais je vais vous partager un petit tips de vie avant de vous proposer un dernier verre pour la route. C'est un peu drôle, mais sérieux. Des fois, quand ça va pas dans ma vie, je pense au homard qui était dans la cuisine de Pierre Rousseau. Ah ouais, non, je l'ai mal amené...
Ils ont retrouvé la vie en fait.
Bah oui, c'est ça, voilà. Oui.
Ah, c'était ça la blague ?
Mais oui !
Ah, pardon.
C'est qu'il devait se faire bouffer en fait, et puis finalement il a coulé, donc ils ont. Tu vois ?
Les ancêtres de la Reine des Neiges. Libérés ! Voilà. Tu vois, oui, parce que bien sûr, Reine des Neiges, iceberg, etc. Oui, je me fatigue moi aussi, vous inquiétez pas. Ouais,
Mais sur cette très belle imitation de la Reine des Neiges, c'est la fin de la tournée générale ! Mais vous prendrez bien un dernier verre pour la route.
Oui, oui,
oui.
On va attaquer la dernière partie de l'émission. C'est un blind test magistral sur la cuisine. Et donc, je vais demander à 2 personnes qui veulent bien se manifester et lever la main, par exemple. Vous battez pas. On a un volontaire ?
Oui.
Allez, vas-y, monte sur scène.
Allez.
Mais je crois reconnaître Thomas. Thomas du podcast 12 points. Thomas est un ami et un collègue podcasteur qui fait un podcast sur l'Eurovision. Avis à tous les Suédois qui sont dans la salle. Est-ce qu'une personne courageuse peut se porter volontaire pour représenter le public aussi ? Allez, on a un Paul ! Bravo mon Paul ! Est-ce qu'on vous entend, cher Thomas et Paul ?
Oui, il faut parler fort, on nous a dit, dans le micro.
Voilà. Avant de fermer le bar avec la classique question con de l'assommoir, je vous offre un dernier verre pour la route avec ce blind test spécial cuisine. Alors, le blind test est un peu facile.
Je suis stressé.
Il va falloir donner le nom de l'interprète et le nom de la chanson. Êtes-vous prêts, mes chers piliers ?
Oui.
Et cher Thomas et Paul qui représentent le public.
Oui. Allez le public.
Je suis stressé, putain.
C'est parti pour la première. Ah, vous l'avez pas ? Oui !
Qui ? Dans le public ? Qui dans le public ? C'est Rammstein !
Oui, mais bravo ! Bravo ! Bravo, c'est Rammstein. Et le nom de la chanson ? Mein Teil, qui veut dire mon repas pour les Allemands dans le public. Non, vous la connaissez pas ?
Pas du tout.
Un point pour le public.
Mouais.
Mais je vais juste rester sur Rammstein avant de passer à The Doors. Oups. Cette chanson de Rammstein, en fait, il parle de ce japonais-là qui s'est fait couper, pas la boule de Mozart, mais la Beethoven, et qui s'est fait manger par son copain. Voilà. Et cette chanson parle de ça, Mein Teil.
Miam.
Et j'ai envie de dire bon appétit.
Allez, on passe à la deuxième.
Bah les Doors, ouais.
Bravo Big Bertha, je danse. Mais quel est le nom de la chanson ?
Ratatouille.
Soul Kitchen.
Bravo Thomas, bravo le public. Soul Kitchen.
Le public est au taquet ce soir.
Deux points pour le public.
Attends. Il y a 0-5 chez nous.
C'est parti pour la troisième.
Des cornichons Nino Ferrer. Non.
Non.
Non, pas tes cornichons. Pas bien.
Mais t'as du Patrick Bruel quand même, parce que là, moi.
Ah, T for two and two for tea.
Ouais. Et quelle est la chanteuse ?
C'est Billie Holiday ?
Non. Billie Holiday qui est ma chanteuse préférée, mais c'est pas celle-là. Bravo ! Ella Fitzgerald ! Merci, Ceci. Bravo. Et ça fait 3 points pour le public quand même, hein. Allez, les piliers là. Incroyable. Alors attention, celle-là, elle est très contemporaine, voire trop contemporaine. J'avoue, c'est un peu un délire perso que je me suis fait.
Aya Nakamura ?
Non.
Jules ?
Non. Ah. Pas sexy.
Morgan Makeup !
Bravo ! Oh !
Il a osé mettre Morgan Makeup.
Et oui. Non mais en vrai, vous savez vraiment, j'aime Morgan Makeup, mais...
Je ne suis pas déboutable, je suis professionnel.
Oui, sans blague, j'adore. Et donc, le nom de la chanson, tu l'as ou pas ?
Ah merde, Arisa.
Non, pas du tout. C'est Queen Chorizo, Chorizo Queen. Mais vous savez que vraiment, je l'écoute. Mais vraiment, c'est une chanson qui est dans ma playlist et je l'écoute sérieusement.
Moi, je trouve ça beau d'assumer ses goûts de merde. Vraiment. Non, bravo.
Merci. Mais pour moi, c'est un peu la Philippe Catherine, tu vois, c'est là.
Ah non.
Ah, Philippe Catherine, ma banane. Oui, il a répondu à une chanson qui n'était pas dans le blind test, mais bravo. Allez, c'est parti pour la suivante. Donc, merci, tu fais remonter les piliers d'un point.
Et
bravo,
j'ai des super références musicales, vous avez vu.
Les Doors, connais pas. Morgan Makeup. Attention pour la suivante.
La Belle et le Clochard.
Qui fait la Belle, qui fait le Clochard?
Ratatouille, Camille, les rêves, les...
Bravo Thomas, encore un point pour le public. C'est Ratatouille. T'es mal à taille du rat, Thomas.
Le festin, la chanson, le festin.
Mais exactement, en combien de mots le festin?
Demandez mes babas, mes petits babas au rhum.
Daniel et Fnouf.
Non, Annie Cordy.
Bravo Big Bertha. Annie Cordy est le nom de la chanson.
Petite pépé, chocolat. Non, chocolat et petite pépé. Non.
C'est pas choqué cacao ça.
Non.
Baba au rhum.
Baba au rhum.
Baba au rhum, bravo. Là, c'est la synchronicité incroyable. Parce que, est-ce que c'était Annie Cordy, la meuf dès le départ?
Mais évidemment.
J'imagine, Valente, cette personne âgée qui arrive dans... ta boulangerie qui demande.
Demandez mes babas, mes petits babas au rhum.
Mais là, la même voix. Alors, c'est ça le problème. Ouais. C'était Annie Cordy en fait que t'as servi depuis le début. Quel reveal incroyable. Du coup, on a trouvé qu'est-ce qu'il y avait sous son grand chapeau. Et enfin, la dernière, elle est aussi contemporaine, parce qu'on m'a reproché dans l'épisode précédent d'avoir des goûts de vieux. Mais oui, évidemment, moi, il n'y avait que Bowie. On m'a dit, oh, vraiment, mets autre chose. Et donc, du coup, contemporain, que je déteste, c'est ma coquillette de la chanson, ça, vous allez voir.
Trois cafés gourmands.
Des hauts, on a tous.
Quelle horreur.
On a tous le cœur chaud quand on se prend dans.
Et le titre de la chanson,
c'est tout senti seul.
Le suicide.
On n'aime pas sa gueule. On t'emmène, vraiment, on t'emmène à la poubelle, hein, direct, moi, vraiment. Et d'ailleurs, bah alors j'avais plein de questions que j'ai pas osé poser, mais j'avais notamment une question qui était qui est Bernard Boutboul?
Le mari de Dari.
Non, Thomas. Qui est Bernard Boutboul?
C'est un expert.
Qui? Un expert de quoi?
Un expert food.
Un expert food, absolument.
Mais... J'ai gagné un cadeau.
Des boules de Mozart.
Des bouts de boules de Mozart.
Boules de boules. Et c'est Bernard qui te les amène. T'imagines, oh, le truc.
En fait, c'est l'inventeur du café gourmand.
C'est une belle arnaque en plus.
L'arnaque, l'arnaque totale.
Il aurait eu l'idée en 1985
de passer les desserts qui ne se vendent pas. Voilà.
Sur ce, une assiette de fromage s'il vous plaît. C'est la fin du blind test et bravo au public d'avoir gagné. Merci Thomas, merci Paul d'avoir représenté à merveille le public. Eh bien, avant de fermer le bar, mes chers piliers, je vais vous poser la classique question con de l'assommoir. Et si vous deviez vous réincarner en un plat, lequel ce serait?
Des coquillettes. Je sais pas qui a
dit. Qui a dit ça?
Je sais pas, c'était là-bas.
Non, pas les coquillettes, mon Dieu. Non, moi, ce serait pas la coquillette. Moi, ce serait la raclette. C'est les trois hêtes. Vous connaissez les trois hêtes?
Tartiflette.
Tartiflette, raclette et croziflette.
Et levrette. Non, je pense à cigarette, mais bon, les trois marchent.
Mm-hmm. Mais je te conseille la levrette avant la raclette. C'est jamais. Tu conseilles comme ça.
Alors, Valente, si tu devais te réincarner en un plat...
Je pense que ce serait l'escalope de dinde, petit pois de ma mère, truc infâme le mercredi midi. D'ailleurs, maman, si tu m'écoutes, je t'aime. Non, mais c'est épouvantable, vous avez pas... Votre mère, elle avait pas un plat journalier, genre le mercredi, tu savais que tu mangeais ça le... Non, non. Moi, ma mère avait la flemme, donc escalope de dinde, petit pois. Après ça, tu peux plus mourir. Voilà.
Merci beaucoup, Valente. Et toi, Reine?
Alors, c'est pas tout à fait un plat, c'est un aliment. Je pense que je serais du caviar. Oh,
maman, reine.
Pour me donner un espèce de genre un peu inaccessible, pas facile, etc. Genre, pour une élite, j'aimerais bien, je crois.
Waouh, j'en mangerais à la petite cuillère. Et caviar de où?
Alors, comme je n'ai jamais mangé de caviar de ma vie, je n'en sais rien. Je sais pas.
Fabien, si tu devais te réincarner en un plat, lequel ce serait?
Ah bah moi je dirais bah, la truffade ou la ligot, hein, pour me rappeler mes origines du Massif Central. Et puis, je sais pas, c'est réconfortant. Ça a l'air simple comme ça, mais pour vraiment le réussir, c'est très compliqué. Donc voilà, donc soit ça, soit le concombre.
Eh ben j'avais une question sur...
Diamétralement opposé, la truffade, voilà. Le concombre.
Mais c'est tout moi.
Le concombre, c'est le dessert, non?
Merci beaucoup, Fabien. Tu sais que moi, j'ai tiré un aligot.
Oui.
Mais très, très loin. On était à plusieurs. À la... Vraiment, c'est incroyable. Jusqu'où ça peut aller, l'aligot?
Je sais pas, mais effectivement, un aligot réussi, c'est un aligot qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Enfin, il faut pas que
est-ce
ça,
qu'on peut faire... Attends, c'est quoi la capitale de l'Auvergne?
Bah, en Auvergne, c'est Clermont-Ferrand.
Alors, est-ce qu'on peut faire un pari Clermont avec un pass aligot?
Voilà.
Et enfin, la Big Bertha, si tu devais te réincarner en un plat, lequel ce serait?
Je pense que ça serait un bœuf bourguignon. Ouais. Et alors, attention, un bœuf bourguignon, mais tu sais, dans un énorme fétou, là. Tu sais, le truc à partager. Oui, j'aime bien te partager. Mais tu vois, c'est un truc réconfortant, c'est un truc cool. Encore une fois, sorry les veggies. Mais c'est hyper bon, c'est hyper réconfortant, avec ta petite patate à côté et tout. Voilà. Et le petit carré de chocolat noir, 80% à l'intérieur.
Dans le bœuf bourguignon ?
Ah là là, c'est indispensable. Tu sais, j'ai eu mon resto là pendant 3 mois à la Nouvelle Scène et j'ai fait un bœuf bourguignon avec une petite languette justement de chocolat noir où on versait la sauce dessus, ça fondait et ça se mélangeait. Pourquoi le chocolat noir dans un bœuf bourguignon ? Parce que ça permet de rééquilibrer les tanins du vin, mais aussi de rendre un côté très velours à ta sauce.
Mais tu sais, pour les vigies, il suffit juste d'enlever le bœuf et on mange des bourguignons.
Non, tu peux faire des bœuf bourguignon avec des champignons portobello.
Ok.
Ouais, ou du seitan. Et non, pas du seitan.
Ouais. Ah ouais, voilà, grave.
Je t'ai coupé dans la blague, j'étais senti partir, désolé.
Bah merci beaucoup pour ton bœuf bourguignon. Quand est-ce que tu nous le fais goûter ?
Je sais pas, on prend rendez-vous quand ? J'en fais un ici quand vous voulez.
Allez, c'est Abby. L'invitation est lancée, Olivier.
Et toi, Jean-Sébastien ?
Moi, si je devais me réincarner en un plat, ce serait l'assommoir. C'est vrai que ça marche pas à chaque fois, cette réponse. Mais parce que le running gag, c'est qu'à chaque fois, je réponds, c'est l'assommoir.
Et c'est la saumure,
je sais pas.
C'est la saumure. C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci à tous de nous avoir écoutés. Mettez 5 étoiles au podcast partout où vous le pourrez. Écoutez aussi les autres épisodes de l'assommoir. Parlez-en autour de vous. Et on remercie nos piliers de ce mois-ci qui étaient la Big Bertha. Bravo!
Merci!
Bertha.
Oui.
Où est-ce qu'on peut t'aduler?
On peut me retrouver partout en France dans un show que je produis qui s'appelle Excuse My French. Ou on peut me retrouver aussi dans des cabarets comme le cabaret Le Secret ou dans plein d'autres soirées. Faut juste suivre mon réseau Instagram. Il y a un petit linktree avec toutes mes dates.
Voilà.
Bravo. À côté de toi, il y avait Valente Baker. Yeah. Valente, où est-ce qu'on peut t'applaudir ?
Dans tous les comédie clubs à Paris. Et puis je monte un spectacle, donc surtout, suivez-moi sur les réseaux, ce sera plus facile pour tout voir.
Cool.
On va te suivre, merci Valente ! Et il y avait Reign of Thrones ! Bravo ! Reign of Thrones, où est-ce qu'on peut te suivre ?
Bah sur Instagram, Reign of Thrones, tout simplement.
Super ! Merci Reine. Et enfin, Fabien Andan, bravo !
Merci de m'avoir invité.
Où est-ce qu'on peut te lire ?
Eh ben, on peut me lire sur 20minutes.fr et puis sinon sur les réseaux sociaux, c'est @fabrandan un peu partout. Voilà.
On te lira, bravo Fabien.
Merci.
Merci à tous. On se retrouve le mois prochain et alors le mois prochain, on sera toujours en public. Ouais. On sera au Pod Rennes. Voilà, il va falloir aller à Rennes. C'est ouais, arrête. Oh non.
Oh. Je sais pas, tu fais pas un bus, la Sommoir, tu vois, pour y aller direct.
Mais de ouf.
En aligo.
Podren, qui est le premier festival de podcast en France qui a été créé. Et donc j'ai la chance d'animer une émission là-bas. Et donc on va se retrouver avec les reines les plus folles de Rennes. Puisque ça sera un casting 100% drag queen avec Melba Zigomar, Giant Jasmine, Anne-Marie Condom. Et en attendant, suivez toute l'actualité du podcast sur les réseaux et en particulier Instagram. Allez, santé! Alors là, généralement, on finit par une petite blague.
Que dit un boulanger qui vend des croissants surgelés? Ça fera 1,40€, s'il vous plaît.
Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live ? Rendez-vous à Podren les 30 et 31 mars 2024 à Rennes. Venez au Festival du Podcast et découvrez l'histoire du podcast, Gone Bay, Pod Monstre Trésor, La Vie au Grand Air, le podcast de l'Assommoir, Super Joute Royale, Stucom, Spoilers, Nanarologie, H comme handicapé, Hollywood Beast, Préhistorique, Le Duel, Les Abyssales et l'univers de la fiction sonore. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite.